Bonjour, bienvenue à Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Je suis Guillaume.
Jenny.
Et on est en compagnie de Farouko derrière la console. Ce soir, on a un menu, quand même assez complet, je dirais. Bon, on a quelques nouvelles brèves, Jenny.
C'est ça, une nouvelle de grève qui a été évitée chez Ramédia en Abitibi, puis deux nouvelles concernant les néo-nazis d'aujourd'hui.
Ouais. On va y aller avec une conférence qui a eu lieu hier soir sur qu'est-ce que le collectif anarchiste La Nuit? On parle beaucoup de notre analyse de la société ici à l'émission, mais on va présenter plus en détail qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait dans notre organisation plus large, notre organisation fédérale qui est l'UCL, l'Union des communistes libertaires. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, on va y aller en musique, puis on vous revient dans pas très longtemps sur les ondes de Sikaya.
En fait, on va faire un petit tour de passe-passe. On va commencer avec un PPP.
Oh!
Et ensuite, on va mettre une petite chanson pour ensuite faire les nouvelles et passer à notre conférence.
Merveilleux. Merci de la précision.
On va commencer immédiatement avec notre beau PPP.
Régis Labeau!
N'écoutez pas ces bavards qui, en étouffés dans leur sécurité québécoise, dans leur salon, ergote.
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre âme immortelle ou votre course bien pleine? Il est grand temps de donner l'assaut!
Vous allez combattre, monsieur dame des barbares.
Warrior.
Vous allez combattre des barbares.
Thief.
Des barbares qui détruisent leur patrimoine.
Gladiator. Conqueror.
She said you would come. A man of great strength. A conqueror.
Il y a chez vous cette espèce de générosité que la population ne sait pas ou ne sait peu.
Let us take the world by the throat and make it give us what we desire.
Monsieur Lame, je présume que vous avez, malgré votre entraînement, des papillons dans l'estomac. Vous êtes sûrement un peu fébrile, en tout cas moi je le serai. Nous avons des convictions démocratiques. Et très sincèrement, sachez que les gens de Québec le pensent.
He's evil, a sorcerer who can summon demons.
Nous sommes très fiers de vous. Merci.
Now they will know why they are afraid of the dark. Now they will learn why they fear the night.
Conan, the barbarian.
Vous allez combattre les barbares. Les barbares qui détruisent le patrimoine.
Et leur vie par procuration. Le bonheur s'achète à crédit. Pour ça tu dois payer le prix. Cela ne fait que renforcer la frustration, la jalousie. Les politiciens nous vantent les bienfaits de la civilisation, mais leur pouvoir repose sur la misère et l'exploitation. Les guerres c'est money, les alliances c'est money, les armes et la drogue c'est money, la mort est un business qui paye.
Tout le monde se croit fort, tout le monde se croit invincible. On fonce droit dans le décor. La folie ne tient qu'à un fil. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Lo puedes con candela que te puedes quemar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. La vida no está fácil, puedes perder o ganar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Camina con cuidado, te vas a perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Cuidado, cuidado, cuidado. Et pourtant je garde encore l'espoir. Et pourtant j'espère qu'un jour nous sortirons de ce cauchemar. Je crois dans les yeux de cet enfant qui sourit. Je crois dans la vibration qui fait grandir les esprits. Et pourtant je garde encore l'espoir. Et pourtant j'espère qu'un jour nous sortirons de ce cauchemar. Je crois dans les yeux de cet enfant qui sourit. Je crois dans la vibration qui fait grandir les esprits. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Non puedes con candela que te puedes quemar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. La vida no está fácil, puedes perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Camina con cuidado, te vas a perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Cuidado, cuidado, cuidado. L'équilibre est fragile, la situation difficile. No juegues con candela que te puedes quemar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. La vida no está fácil, puedes perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Camina con cuidado, te vas a perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Cuidado, cuidado, cuidado.
De retour à Voix de fait sur les ondes de Sequoia. On va y aller avec quelques nouvelles.
On va commencer par la seule bonne nouvelle de la semaine, c'est premièrement, c'est dans le contexte économique actuel des travailleurs qui réalisent des gains, on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est les travailleurs et travailleuses de RNC Média, ça s'appelait avant Radio Nord Communication, c'est un média qui est situé en Abitibi. Une entente de principe qui est survenue entre leur syndicat et la partie patronale le 19 mars dernier. Cette entente-là a été adoptée dans une proportion de 97%. Puis ça prévoit la protection du plancher d'emploi des augmentations salariales. Ça va aussi permettre à RNC Média de créer des postes de journalistes vidéastes pour le Témiscamingue et le Nord du Québec. Puis c'est vraiment une bonne nouvelle parce que le dernier conflit de travail qu'il y avait eu à ces compagnies-là, c'était en 2002-2004, il avait duré plus de 20 mois puis ça avait privé les Témiscamingue d'une valeur régionale télévisée.
Surtout dans le contexte où, régional où il y a peu de médias, ça va effectivement permettre une diversité.
Souvent en espérant qu'il n'y ait pas trop de postes qui ont été coupés en Radio-Canada, mais en tout cas,
ouais, non, pas encore sorti. Effectivement, ça, on ne sait pas non plus qu'est-ce que ça va donner.
Bon, du côté des mauvaises nouvelles, premièrement, si on reste dans le contexte canadien, il y a eu des affrontements samedi dernier, le 21 mars, entre des militants néo-nazis de la Young Guard, garde aryenne, puis des militants du fascisme. En tout, les deux groupes, ça faisait 500 personnes, mais c'est plus... à titre de Radio-Canada, donc pas trop de détails, je sais pas combien c'était de chaque côté, qui est encadré par près de 150 policiers, puis des deux personnes des deux côtés qui sont venus au coup. Puis il y a eu des arrestations de trois personnes, mais de ce que j'ai pu lire, certains forums, c'est anglophone, pensent que c'est juste des militants racistes qui ont été arrêtés, puis les nazis, ben, continuent votre affaire, c'est pas grave.
Ouais, ben c'est ça, j'avais cru voir moi qu'il y avait qui dans le devoir en tout cas il disait qu'il y avait à peu près le même nombre de chaque côté, mais c'est ça, c'était pas clair qui avait été arrêté, mais effectivement on se doute bien que dans la police c'est plus sympathique que à ces militants là.
Puis là, deux personnes qui ont été légèrement blessées aussi, puis la grosse manifestation anti-nazi, c'était surtout pour réagir à une campagne qui est menée justement par la Young Guard, qui mène une campagne de recrutement dans les écoles. Leur, selon une campagne de recrutement, c'est une opération cours d'école, ça s'appelle, qui consiste en distribution de disques compacts comportant des messages néo-nazis. Donc,
ça vont te surveiller, les autres.
Bon, puis aussi, ben, y a le chef du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui lâche pas le morceau pour ce qui est des chambres à gaz. C'est là, c'est pour la troisième fois qu'il y a cette semaine devant le Parlement européen que qualifie les chambres à gaz de détails de l'histoire. Puis c'est que Ben Nadi qui sont les Juifs qui sont morts. Puis c'était les gens la troisième fois qui tenaient ces propos-là. Puis là, il y a des mesures qui vont être adoptées peut-être pour l'empêcher de présider les séances du Parlement européen suite à ces propos-là, mais on ne sait pas encore si. Faut qu'il fasse une modification de règlement pour ça, puis c'est pas sûr encore.
Mais pourquoi lui réussit à être président du Parlement européen?
Parce qu'il est plus vieux de la gang.
Ah, d'accord. C'est...
Parce qu'il est rendu à 80 ans, vu que c'est le doyen, ben il laisse parler, même s'il dit des affaires qui n'ont pas de bon sens.
Okay, bref, la session peut parler de comme les agriculteurs en crise en République tchèque, mais lui, il va parler des Canadiens et de.
Ouais. Ouais.
Ouais, mais en fait, il est stupide, le bonhomme, mais il glisse le propos. Tu sais, il va pas amener le propos. Quand il va trouver que ça se glisse bien, il glisse, puis ça passe dans les médias.
Mm-hmm.
Puis, en tout cas, sérieusement, ça fait trois fois qu'il se fait pogner. Moi, je me dis, il est mûr pour les radios poubelles de Québec.
Effectivement, je pense que s'il s'en venait au Québec, il serait engagé tout de suite.
Il aurait une bonne job. Le 93, t'attends.
Puis, tu sais, lui, il essaie vraiment de jouer à la victime, là, parce que, tu sais, il y a... le président du groupe socialiste du Parlement européen, Martin Schulz, qui l'a qualifié de vieux fasciste, de négationniste de l'Holocauste. Mais lui, ce qu'il répond, je me suis borné à dire que les chambres à gaz, ça date de l'histoire de la guerre mondiale, ce qui est une évidence. Fait que, non, ça fait la troisième fois qu'il a été condamné deux fois à payer des amendes pis tout, puis c'est la troisième fois, puis on dirait qu'il n'a pas compris encore.
Rendu à cet âge-là.
C'est la chambre à gaz qui reste. C'est un détail de sa vie.
C'est un détail, c'est ça. Bon, alors on va s'en aller à la musique. Avec quoi?
Tu m'avais pas dit que tu introduisais puis qu'on commençait.
Ah, ben on va commencer tout de suite.
Sinon, on va être serré.
C'est vrai. Bon, ben hier soir, c'était. Ben pas hier soir, mardi soir cette semaine.
Oui, parce que vous pouvez nous écouter en rediffusion le jeudi à 14h, si je me souviens bien.
À 14h, effectivement. Donc, il y avait les Mardis de l'Anarchie. Qui ont présenté, dans le fond, qui ont laissé une tribune à l'UCL pour qu'on présente notre projet, qu'on présente notre collectif, le collectif La Nuit, et qu'on présente notre nouvelle organisation, l'Union communiste libertaire. Et il y avait entre autres Mathieu, Phébus, Janie et moi-même, Guillaume, mais on m'entendra pas parce que il y a une partie que j'ai pas pu mettre parce que c'était un peu trop long. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'organisation en tant que telle, nos bases organisationnelles et tout, il va y avoir éventuellement plus d'informations sur le site www.causecommune.net. Donc, ça, c'est le futur site de l'UCL là, qui est en construction. Sinon, ben c'est sûr que sur nos blogs aussi, on risque de le mettre là, la partie qui n'a pas été montée pour l'émission.
Oui, le site étant www.voixdefait.com.
Effectivement.
Avec des nouvelles quotidiennes.
Oui, mise à jour à l'heure près.
Aux 15 minutes, on a dit.
Ok, c'est vrai.
Faut pas montrer que c'est. On descendra pas en bas de ça. Donc, on va commencer l'entrevue immédiatement.
En tout cas, nous avons permis de présenter un peu ce qu'on fait, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir s'adresser comme ça, de manière complète, pouvoir présenter de manière très libre. Notre projet politique, nos activités, comment on s'organise, puis pourquoi on le fait. Puis on espère en tout cas pouvoir l'amener de manière à ce qu'il y ait discussion, à ce qu'il y ait débat, parce que évidemment tout ça est super important à nos yeux aussi. Dans un premier temps, la soirée vise un peu à présenter notre projet politique, le communiste libertaire, qu'on va aborder dans quelques instants, mais aussi à présenter qui on est comme collectif, parce que bien que la ville de Québec soit toute petite. Il y a souvent des fois les gens vont passer un journal comme Cause commune, qui est le journal de notre sans trop savoir qui le fait, qui le produit, dans quel but, dans quel objectif. Fait qu'on veut essayer d'amener ça ce soir, puis d'en discuter aussi avec vous, puis de vous expliquer pourquoi on s'organise de cette façon-là, puis pourquoi on pense que ce serait une bonne chose que d'autres le fassent également, et ainsi de suite. Notre collectif, le collectif Anarchiste la Nuit, existe depuis déjà quelques années, depuis 2002, je vais y revenir tantôt, mais on fait maintenant partie d'une nouvelle organisation qui s'appelle l'UCL, l'Union communiste libertaire. C'est une nouvelle organisation là, qui est née, une organisation révolutionnaire anarchiste qui est née au mois de novembre 2008 lors d'un congrès qui a eu lieu dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. L'UCL prend un peu la relève de ce qu'était la NEFAC au Québec. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, parler de la NEFAC, c'était la Fédération des communistes libertaires du Nord-Est. En anglais, c'était Northeastern Federation of Anarcho-Communists. Donc, il y a plusieurs des collectifs qui étaient membres de la NEFAC au Québec qui ont migré, disons, vers l'UCL et qui ont conservé, ceci dit, des relations assez étroites avec cette organisation-là, la NEFAC, qui est maintenant implantée essentiellement aux États-Unis. Donc, l'idée, c'était de pouvoir refonder, disons, une nouvelle organisation au Québec qui corresponde à notre vision des choses puis notre façon de nous organiser et surtout qui tienne compte davantage de la réalité politique québécoise que nous pouvait faire la NEFAC, qui était une fédération qui englobait quand même tout le nord-est américain, donc les États comme le Massachusetts, l'État de New York, l'Ontario, etc. Donc, c'était pas une organisation qui était spécifiquement québécoise, mais là, en fait, l'UCL, c'est un choix réfléchi de l'ancrer davantage dans la réalité d'ici, une réalité politique et sociale qui est quand même assez différente de celle des États-Unis. Lors du congrès de fondation de l'UCL au mois de novembre dernier à Montréal, il y avait quand même une cinquantaine de personnes qui étaient présentes, qui venaient de villes aussi différentes que Drummondville, Sherbrooke, Saguenay, Saint-Jérôme, Trois-Rivières, Montréal et Québec. Et à notre connaissance, en tout cas, c'est l'un des rares moments où des anarchistes de différentes régions du Québec ont pu se retrouver pour discuter de politique puis fonder ensemble une nouvelle organisation. C'est sûr qu'il y a des rassemblements anarchistes qui, au Québec, rassemblent beaucoup de monde, mais pour fonder une nouvelle organisation, à notre connaissance, en tout cas, c'était probablement la première fois qu'on retrouvait des gens d'un peu partout comme ça, pour fonder une organisation qui est spécifiquement anarchiste. Lors de ce congrès-là, bon, on a adopté une constitution, début et principe, mais ça serait faux de penser que l'UCL, justement, est apparu du jour au lendemain, comme par enchantement. Comme je le disais tantôt, c'est sûr qu'on peut compter sur l'expérience historique de la NEFAC au Québec, qui a existé quand même pendant de 2001 à 2008, avec des collectifs présents jusqu'à dans 4 ou 5 villes différentes. Mais disons que le congrès avait été précédé par un appel dans le journal Cause commune, qui est distribué maintenant dans plusieurs villes au Québec. Et des rencontres préparatoires ont été tenues aussi dans plusieurs villes. Moi, personnellement, par exemple, je me suis rendu à Saguenay rencontrer des gens là-bas qui étaient membres d'un collectif qui s'appelle le CRAC, le collectif de résistance anticapitaliste, qui est devenu, suite à la fondation de l'UCL, le collectif Emma Goldman. Donc, moi, je trouve que c'est un développement intéressant de voir que des anarchistes se regroupent dans une région comme le Saguenay, créent des liens avec des gens dans d'autres villes de cette région-là, comme ce soir, par exemple. Ce même collectif-là organise une soirée comme celle-ci, sur le même thème, à Saint-Félicien. Bon, à mon sens, c'est pas banal de voir que l'anarchisme commence à avoir une existence concrète dans d'autres villes que Montréal ou Québec. L'UCL peut aussi compter sur l'expérience de gens qui étaient déjà impliqués à leur façon, que ce soit dans le mouvement étudiant, dans le mouvement syndical, dans le mouvement féministe, dans le mouvement antifasciste, dans le mouvement populaire. Donc, il y a différentes personnes qui se sont joints à l'UCL lors du congrès, qui n'avaient peut-être jamais milité dans un groupe anarchiste auparavant, qui était libertaire, qui avait des idées libertaires, mais qui n'avaient jamais joint un groupe en particulier. Donc, ça aussi, c'est un point positif sur lequel on a travaillé. Finalement, l'UCL entretient aussi des liens avec d'autres organisations à l'échelle internationale. On est membre d'un réseau qui s'appelle Anarchismo, en fait, autour d'une déclaration commune, regroupe quand même des anarchistes, des organisations anarchistes sur 4 continents. Il y a des anarchistes, par exemple, sud-africains et sud-africaines qui sont membres de l'anarchisme, tout comme des gens en Europe, en Amérique latine, au Liban, et en Europe de l'Est comme en Europe de l'Ouest, un peu partout sur le continent nord-américain également. Bon, c'est bien beau faire partie d'un réseau, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut amener? Bien, ça peut amener des campagnes internationales comme celles qu'on prépare actuellement contre la guerre en Afghanistan, contre l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, avec des organisations membres qui sont implantées dans des pays où il y a où l'armée nationale est en train d'intervenir. Donc, par exemple, cette campagne-là, on va essayer de se coordonner avec des Italiens, avec des Français, avec des Ontariens, des Américains. Et aussi, on prépare une tournée de conférence à l'automne avec un camarade de l'organisation Red Libertarias de Buenos Aires qui va venir nous parler à travers le Québec et l'Ontario d'expérience autogestionnaire dans un contexte de crise économique. Donc ça, c'est des affaires qu'une organisation peut arriver à développer puis à organiser en lien avec d'autres groupes qui partagent les mêmes objectifs que nous à travers le monde. L'UCL est aussi une organisation qui est relativement jeune. Donc, c'est que, disons que la plupart des gens ont moins de 30 ans, moins de 35 ans. Ça, c'est aussi lié en lien avec, c'est un portrait type de ce que c'est l'anarchisme au Québec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a comme à un moment donné, il y a des sauts qui se sont faits au plan générationnel qui font en sorte que, on compte sur les doigts d'une main, des fois, les gens qui ont 50 ans, 60 ans et plus. Dans nos rassemblements, dans nos regroupements. Ça, c'est une faiblesse, je crois, de l'anarchisme organisé ici au Québec, qui n'est pas une transmission plus étroite d'expérience de lutte, d'expérience militante. Alors, malheureusement, l'UCL ne fait pas exception à ça. C'est sûr que comme une nouvelle organisation, les débuts sont souvent difficiles. Et l'UCL n'échappe pas à cette réalité-là. Au niveau des défis auxquels on fait face actuellement, on réunit des gens qui n'ont jamais lutté ensemble de manière étroite à travailler au sein d'une même organisation. Alors, les premiers mois peuvent être un peu, des fois, chaotiques, mais on sait qu'on a plus d'éléments en commun que de choses qui nous divisent. C'est déjà un bon signe. Puis, je pense, le désir aussi de passer puis de surmonter ces obstacles-là. Et ce soir, en fait, on veut vous présenter un peu qu'est-ce qui nous amène à désirer surmonter les obstacles, les embûches, puis en nous organisant de manière spécifique. Parler aussi de notre projet aussi révolutionnaire, le communisme libertaire, et puis on espère susciter des échanges, des débats constructifs. En deux mots, le collectif Anarchiste la nuit, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Ben, d'abord, notre collectif existe depuis 2002. Avant, il y a eu d'autres collectifs anarchistes qui se réclamaient du même projet que nous à Québec, le collectif Émile Henry, notamment. Depuis ce temps-là, au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de diffuser un max d'infos à travers le blog, émissions de radio, des journaux. On essaie d'amener qu'il y ait une présence anarchiste dans la ville. On n'est pas les seuls, évidemment, à le faire. Les bandits d'anarchie sont bien là pour en témoigner. Et aussi, on essaie d'assurer qu'il y ait une présence libertaire dans les luttes, ce qui ne va pas de soi nécessairement. Dans les luttes populaires, dans les luttes, les défenses des droits des travailleurs et travailleuses, dans les luttes étudiantes. Donc, au quotidien, c'est ce qu'on fait. Mais on s'inscrit aussi dans un contexte qui est bien particulier, qui est celui de la ville de Québec. Alors, vous connaissez le contexte, mais je pense que Jamie va quand même nous rafraîchir un peu la mémoire.
Première question qu'on peut se demander quand on pense au contexte politique de l'Ottawa-Québec, c'est si les idées réactionnaires font partie des meubles. Parce que c'est tellement clair, présent, qu'à un moment donné, c'est ça. Puis, quand on peut se poser ces questions-là, quand on s'adresse au climat politique de la ville, il y a des rebelles, de populistes, crasses, le conservatisme ambiant, il y a même une excès de droite nazie. C'est pas pour rien que Québec est souvent décrit comme une ville froide, blanche, conservatrice, puis les médias, ils n'ont pas encore fini de parler du mystère de Québec, puis personne ne semble avoir trouvé la pense à ça. Le premier constat qui saute aux yeux, c'est qu'on dirait que les populistes de droite ont plus de facilité à mobiliser les gens que n'importe quelle autre cause sociale, que si on prenne le droit au logement, le droit à l'éducation, l'antimilitarisme. T'sais, les manifestations qui ont les supposées causes, qui ont assemblé plus de gens à Québec, ben, ça a été les 50 000 personnes qui ont marché pour défendre Choix et Jeff Lyon, ou dernièrement l'appel du mouvement La Bombe pour sauver les Red Bull Crash Ties. C'est ça qui rassemble le plus de monde à Québec. Bon, justement, quand c'était mentionné, c'est des réactionnaires, ça va pratiquement faute à Québec, c'est ce courant d'opinion qui s'est auto-incarné par les radios poubelles, il y a eu Jeff Lyon, il y a eu André Arthur, comme lui, rendu à TV, là, de ce temps-ci, c'est surtout Sylvain Bouchard. Pour la COVID 13-3. Un exemple assez éloquent, c'est une couple de jours avant la manifestation anti-militariste qu'on a défilé militaire du 22 juin 2007, qui avait été organisée par Guerre à la Guerre et Coalition de Québec pour la Paix. Cet animateur-là, il avait demandé aux partisans de l'armée d'agresser physiquement les manifestants, puis c'est justement arrivé, tout le monde qui a mangé des coups par la tête, puis etc. Puis pourtant, il n'y a personne dans la ville qui s'est offusqué, que c'est clairement on appelle la violence, mais ça. Passer comme dans du bar, comme c'était complètement normal. Puis, même que c'est un discours qui est tellement présent qu'on pourrait se demander si ces personnes-là, ils n'ont pas eu un chèque en blanc pour
dis ce que tu veux, man, puis on ne viendra pas t'écœurer. Puis, justement, tu sais, à choix, il y a souvent eu, tu sais, radio-là, des discours contre les pauvres, des discours contre les noirs, contre, tu sais, ça, les femmes, tout ça. Dernièrement, au 93.3, il y avait un acharnement à choix, puis au 93.3 contre les HLM, comme quoi, quel monde qui recevait des logements sociaux, ben, c'était du monde qui travaillait pas, puis il y a eu le monde. Que lui, gars, tu fais un bouchard, je paye pour ça, puis moi, j'ai jamais travaillé de ma vie, puis lui, il a jamais travaillé, puis il a un gant plus que moi, en tout cas. Vraiment, du causage de ça contre les pauvres, tout ça. Puis, juste au sujet, quand il y avait eu l'affaire Scorpion, ben, un des animateurs de choix avait appelé au code brun mâle contre les noirs, puis ça. Non, c'était le mec avec, apparemment. Puis, c'est ça. Puis là, ça, à Québec, les mouvements réactionnaires sont vraiment forts. T'sais, on a juste à regarder au niveau de l'extrême droite nazie. Il y a un crescent noir en pleine rue, puis c'est absolument correct. Puis un gay se fait que c'est des boîtes à mâchoires, puis ça a l'air. Ben, personne n'a fisqué vraiment. Puis, pas mal de ça. Puis d'un côté, on pourrait se dire à Québec, ben, y a-t-il une gauche répliquée à ça? Ben, pas vraiment en fait, parce que si on regarde juste du côté de la mairie, ben, la bombe est en train de tout ramasser. Il y a eu un temps où c'est qu'il ramassait pas mal de députés. De conseiller, je veux dire, qui avait été élu sur la bannière du renouveau municipal de Québec. Puis il y en a beaucoup qui sont. Ils ont quitté ce parti-là justement pour rejoindre la future équipe Régis Labeaume. Fait que. Ils sont pas très bien.
Mais bon, c'est sûr que dans ce contexte-là, l'ennemi, entre autres, un de nos objectifs politiques, ça a été de lutter au cours des dernières années contre la montée de la droite populiste à Québec. Puis ça reste encore un de nos objectifs centraux. Mais au-delà de tout ça, au-delà de lutter contre ce discours-là, puis ces pratiques-là, de le dénoncer de toutes sortes de façons, puis d'amener aussi une résistance, puis un contre-discours, il faut aussi parler de notre projet politique, parce que c'est bien beau d'être en résistance ou d'être en opposition face à un milieu qui est des fois assez hostile à ces idées-là. Il faut quand même faire l'effort de définir ce qu'on veut exactement. C'est sûr que on connaît bien la critique que font les anarchistes en général de l'État et du capitalisme. C'est pas mon objectif ce soir de revenir vraiment là-dessus. Ce qu'on connaît moins en revanche, c'est par quoi les anarchistes souhaitent remplacer justement ces deux systèmes-là liberticides. Et c'est là où je trouve que le mouvement anarchiste, sa faiblesse actuellement, c'est d'être capable de définir clairement un projet politique qui apparaît cohérent, qui apparaît sensé aux yeux d'une partie importante de la population. On sait par exemple qu'au fil des ans, il y a des générations entières de travailleurs et de travailleuses qui se sont quand même penchés sur cette question-là. Quel monde on veut? Comment on veut changer cette société? Et en bonne partie, le projet communiste libertaire est apparu grâce à leur lutte et grâce à leur réflexion. C'est pas un projet qui est né spécifiquement dans la tête de penseurs ou de grands théoriciens, mais de l'expérience concrète de la lutte sur plusieurs continents. Le communisme libertaire, c'est pas, à mon avis, en tout cas, un idéal qui est figé, qui est comme sclérosé dans le passé, comme certains le pensent, malheureusement. C'est pour moi, en tout cas, un si on peut l'appeler ainsi, un programme. Le mot est peut-être pas très politiquement correct, libertaire, mais un projet, en tout cas, qui est d'actualité, puis qui mérite d'être débattu publiquement, en tant que tel. Une chose sur laquelle les anarchistes s'entendent souvent, c'est de dire que la production capitaliste entraîne, d'une part, l'exploitation salariée, et que cette production-là est faite davantage pour, évidemment, répondre au désir de profit de certains qu'à un réel usage social positif qu'on en fait. Ça, c'est un constat de base. Mais comment, en fait, on arrive à redéfinir tout ce qui est la production dans notre société. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer ça puis d'amener justement des solutions partielles ou de se satisfaire d'une espèce de capitalisme à visage humain, éthique, biologique, et etc. Il s'agit, d'un point de vue communiste libertaire, de poser la question de la réappropriation de ces moyens-là de produire et de distribuer les choses dans notre société, les biens et les services. De penser justement à la récupération et la réappropriation, pas juste pour produire la même chose, mais de manière solidaire, libertaire et coopérative, mais de repenser même pour la finalité de la production. Et ça, c'est possible seulement, on peut juste repenser la finalité de la production dans un système, dans une société, si on récupère justement les instruments de produire tout ça. Alors ça, je trouve que c'est une zone grise qui est souvent évacuée dans le discours anarchiste et qu'il faut poser actuellement. Pourquoi on produit, comment on produit, ça c'est possible si on récupère les instruments. Et on ne peut pas les récupérer, évidemment, en créant ciseaux. Tout à l'heure, on pourra essayer de voir comment on peut arriver jusque-là. Donc, et c'est possible de repenser la finalité de la production et comment on produit les choses dans notre société si on arrive à instaurer, là, à mon sens, un des piliers du communisme libertaire qui est sans doute l'autogestion généralisée. L'autogestion partielle, c'est un pas dans la bonne direction. Les projets autogérés sont sans doute une très, très bonne chose. Mais tant qu'on ne pensera pas à l'autogestion généralisée d'une société, donc des moyens de production, je pense que nos expériences sont condamnées à être partielles, à être des laboratoires intéressants, certes, mais qui vont toujours être condamnés à vivre malheureusement des échecs. Parce que le reste de la société est plutôt hostile à ça. On y reviendra tantôt. Mais qui dit autogestion généralisée dit aussi démocratie directe. La démocratie, c'est un bien beau mot qu'on entend souvent, mais elle s'arrête souvent justement au pied de notre lieu de travail. Dans nos lieux de travail, il n'y a pas beaucoup de démocratie. Hein. On nous dit à peu près comment on doit s'habiller, à quelle heure on doit arriver, comment on doit produire, qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel ordre, à quel rythme, etc., etc. Et le pouvoir au peuple, c'est un bien... Je pense que ça n'a rien à voir avec la façon dont on produit les choses dans notre société. Et même quand on sort de notre lieu de travail, le régime démocratique actuel dépossède les gens au quotidien de leur réel pouvoir de changer et d'influencer les choses sur leur vie de tous les jours. Donc la démocratie directe, d'un point de vue communiste libertaire, c'est non seulement l'appliquer à la sphère politique, mais aussi l'appliquer à la sphère économique. Et ça, évidemment, ça va de pair avec un autre élément important du projet communiste libertaire, c'est la question du fédéralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser transformer la société à petite échelle, dans un quartier à la fois, tandis que le reste du monde vit autrement, travaille autrement. On sait que le monde dans lequel on vit, on est nécessairement interdépendants les uns face aux autres. Et de ce constat-là, je pense que c'est valable aussi bien au plan social, au plan politique qu'au plan économique. On a tout intérêt à se regrouper, à se fédérer et à établir ensemble des grands paramètres avec lesquels on va réussir à produire et être capable aussi de s'auto-gouverner, de répondre aussi aux enjeux de notre temps. Donc la question du fédéralisme est essentielle si on veut penser à réorganiser la société sur d'autres bases et dans un sens libertaire.
Yeah.
gens se rendent justement à une société comme celle-là, où justement l'idée de liberté, d'égalité, de solidarité est au cœur, non seulement de la vie politique, de la vie culturelle, mais aussi au sein de la vie économique.
Donc, ben, comment on s'y rend pour en arriver là? Ça prend toute une série de choses, puis et surtout beaucoup d'imagination. Mais quand même des choses qui ont été faites, des expériences qui ont été tentées qui peuvent permettre de se donner une idée de où est-ce qu'on peut aller et puis de comment on peut développer des trucs et comment est-ce qu'on peut envisager finalement se rendre à un autre futur et éventuellement arriver dans une société où l'autogestion, la démocratie directe, le fédéralisme, c'est pas juste des concepts abstraits dont on discute à 20 quelques dans un café-bar autogéré, mais des trucs, des réalités concrètes qui sont expérimentées par des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et pour en arriver là, ben c'est sûr que le projet en tant que tel, ben Mathieu l'abordait un peu, il est impossible dans le cadre actuel à réaliser avec la société telle qu'on la connaît présentement. Il y a toute une série de blocages qui font que même à petite échelle, c'est impossible d'y arriver complètement. Et ben la première chose, c'est évident qu'il y a des gens qui profitent du système tel qu'il est. C'est pas juste un malentendu. C'est pas juste de dire que ben c'est parce que les oppresseurs n'ont pas compris, puis que peut-être que si on leur expliquait comme il faut, ils finiraient par comprendre, puis ils verraient la lumière et ils changeraient leur pratique et leur façon de faire. C'est pas juste ça. Il y a un peu de ça des fois, mais c'est surtout une question d'intérêt. Et c'est évident que les gens qui profitent de la société telle qu'elle est, ils laisseront pas faire. Et donc, ben, nous, on pense, puis ben, ça, là-dessus, on est peut-être un peu vieux jeu, mais en même temps, je pense que c'est encore drôle. On pense qu'on s'en sortira pas sans révolution, puis que ben, le type de projet de société qui est prôné par les libertins, s'il doit dépasser le niveau anecdotique, ben, il doit passer par une révolution sociale, il doit passer par un changement de fond en comble des bases mêmes de la société, des bases mêmes de la vie en société. Et ça passe par, ben c'est ça, pour instaurer ce type de société-là, il faut penser une révolution. Mais bon, c'est sûr que on parle de révolution, puis un fossé qui est tellement grand entre une situation révolutionnaire, puis ce qu'on vit présentement, qu'on se dit, bon, c'est impossible, et c'est pas pensable. Mais c'est pas bien que, bon, de toute évidence, en tout cas à Québec, c'est pas pour demain matin, et même, en fait, on n'est pas dans un avenir qu'on peut envisager à court terme. Il reste que même si c'est pas nécessairement envisageable immédiatement, ça reste une perspective qui nous semble importante, notamment parce qu'on perçoit, qu'on conçoit la révolution comme un horizon politique, comme une perspective stratégique. C'est-à-dire qu'on considère que, bon, quand je commençais à lutter, une phrase bizarre qui me semblait intéressante au niveau de l'horizon politique, de la perspective, puis on faisait un parallèle avec la bicyclette. Et on disait que c'était que la révolution, le projet de société, c'est l'horizon, et que tu regardes, si tu veux réussir à avancer en bicyclette, il faut que tu gardes l'œil rivé sur l'horizon, sinon ben, tu tombes. Et ben, c'est un peu ça aussi, dans la mesure où bon, c'est ça, sans changements fondamentaux, il n'y aura pas de... Sans changements fondamentaux, on n'y arrivera pas. Et il n'y aura pas de changements fondamentaux sans pression forte et sans menace. Et donc, c'est ça. La révolution reste une option stratégique et ça reste une perspective politique. Et aussi, ben, juste rappeler, sans tomber là, dans certains travers d'anarchisme militant, juste rappeler que on ne sait jamais non plus quand les choses... Quand les choses émergent, et même récemment, il y a des révoltes sociales qui se développent à des endroits où on n'aurait pas pu imaginer, où on n'aurait pas pu penser voir des révoltes de grande ampleur. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous péter d'en face. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que si jamais ça nous pète d'en face, qu'on soit un petit peu... Bon, c'est sûr qu'on va tous se faire prendre les culottes à terre, mais qu'on ait une vague idée au moins de où est-ce qu'on veut s'en aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Là, ben là, on peut penser à l'Islande, on peut penser à la Grèce, on peut penser à des luttes qui prennent de l'ampleur, il y en a, et ça continue d'exister, même en 2009, même en Occident. Donc voilà. Sauf que, bon, comme on dit, la révolution, c'est vraiment pas évident, puis si on se ramène dans le contexte de Québec, ouais, bon, ça peut peut-être nous péter d'en face, on peut toujours rêver, sauf qu'avant que ça nous pète d'en face, les poules vont avoir des dents, et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ben, l'enjeu, en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour enseigner aux poules à se faire pousser des dents plus rapidement. Et ça, ben, ça passe par le développement de rapports de force populaires et comment, en fait, on peut changer la situation. Actuellement, c'est sûr, moi, bon, Jeannette en a parlé de façon pas mal de doom and gloom, là, mais c'est sûr que c'est la droite populiste qui a le gros bout du bâton, et c'est sûr que ce sont les élites économiques qui ont le gros bout du bâton. Ça n'a jamais été aussi clair. Notre maire est multimillionnaire. C'est un grand capitaliste. Et ça fait vraiment longtemps que c'est pas arrivé une situation aussi limpide. C'est la bourgeoisie qui gouverne à Québec. Et là, c'est dur d'être... Tu sais, je sais pas, il y a un livre qui était sorti chez Post-CD il y a un certain temps, là, les PDG aux commandes, ben, c'est vraiment ça actuellement. Et on le voit très, très, très clairement. Et donc, pour l'instant, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. Et comment est-ce qu'on peut augmenter notre rapport de force pour qu'éventuellement, c'est nous qui ayons le bâton et que l'on court après. Donc, ça c'est pas évident. Mais bon, si les choses ne changent pas actuellement, c'est que, ben, justement, ce rapport de force n'est pas là. Et visiblement, il y a une majorité de la population qui ne ressent pas le besoin urgent que ça change. Et ben, si on regarde à Québec, là, c'est particulièrement évident. On parlait tantôt là, de Red Bull et d'autres phénomènes de masse. C'est évident que le peuple, au sens propre comme au sens figuré, en ce moment, il ne veut pas que ça change. Par contre, il n'est pas dit que ça va rester infiniment comme ça, et indéfiniment comme ça, et il n'a pas dit que la situation ne va pas changer. Qu'est-ce qui fait changer la situation en général? C'est quand il y a des bouleversements dans la vie des gens. Les bouleversements, bon, ça fait quelques années que je le ressors tout le temps, mais c'est en période de conflit que les gens sont le plus ouverts. Et bon, on peut penser aux conflits syndicaux, aux conflits sociaux, les mouvements. En ce moment, il y a des choses là, qui mettent les choses qui mettent les gens dont on n'aurait pas pensé qu'ils se mettraient en mouvement, qui les mettent en mouvement depuis un certain temps. Bon, c'est sûr qu'il y a des conflits syndicaux qui est une vieille affaire, mais il y a aussi bon, des luttes urbaines qui commencent à éclater. Imaginez, il y a des comités de citoyens maintenant qui se mettent sur pied dans des quartiers de banlieue. Mais il y a aussi tous les enjeux environnementaux sur la rive sud de Québec à Beaumont. Il y a des gens qui se sont mis en mouvement, qui sont allés quand même assez loin contre un port méthanier. C'est des gens qui, visiblement, n'avaient pas grand chose à voir avec l'image qu'on peut se faire de la gauche sociale de la région de Québec. Donc, les gens se mettent en mouvement, qu'il y a quelque chose qui arrive dans leur vie, et il semble que à brève échéance, il va y avoir quelque chose d'assez élevé qui risque de péter d'en face de beaucoup de monde, et c'est toutes les questions de crise économique dont on parle. On est rendu avec une majorité de gens qui, et même chez les propriétaires, qui consacrent plus de 35% de leurs revenus pour se loger, donc tôt ou tard, ça va finir par les rattraper. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous, comment est-ce qu'on peut accélérer ce processus-là? Et c'est justement en essayant de continuer sur les luttes sociales pour transformer des problèmes individuels, comme les problèmes d'habitation, comme les problèmes d'environnement, comme les problèmes de quartier, en des problèmes collectifs. Et montrer que les solutions sont collectives. À partir du moment où est-ce que les gens se mettent en mouvement, qui rentrent en conflit, ben alors là, il y a de toutes les possibilités qui s'offrent. Et donc, c'est ça, il faut juste essayer d'être là autant que possible et de participer à ces trucs-là et surtout pas désespérer. Donc, voilà pour les... Bref, pour faire avancer le schlimblick et faire augmenter le rapport de force populaire, ben, ça va nous prendre des mouvements de masse. Et les mouvements de masse, ben, ça sort des situations conflictuelles. Puis les conflits, ben, les contradictions, il faut que tu les fasses éclater puis il faut que les avances. Et ça, c'est notre rôle à tous et à toutes, mais aussi au monsieur qui vit quelque chose dans son quartier puis ça le fait chier. Et finalement... C'est beau, les gens qui se mettent en mouvement, mais des fois, bon, ça donne pas toujours des résultats super intéressants. Et pour que ça donne des résultats un peu plus intéressants, à défaut d'avoir des résultats libertins ou révolutionnaires, ben, ça prend des pratiques aussi qui sont en rupture. Refaire systématiquement la même chose, puis revenir avec des pétitions et des appels au pouvoir et des grandes marches, bon, c'est nécessaire, ça a sa place, mais c'est pas la seule et unique chose. Et là où est-ce que ça devient intéressant, puis là où est-ce que ça devient potentiellement subversif, c'est quand ça dépasse ces pratiques-là, pratiques qui sont rassurantes pour les gens, mais aussi pour le pouvoir, parce que c'est des pratiques qui sont connues et reconnues. Et dépasser ces pratiques-là, c'est notamment quand il se crée des espaces où le statu quo et le train-train quotidien peut être débordé. Là, ça peut être débordé de plusieurs façons, mais c'est notamment quand les gens développent le maximum d'autonomie au niveau de leur pratique, puis prennent le contrôle de leur lutte, puis en général, c'est aussi un prélude à prendre le contrôle de tout un paquet d'autres choses. Et à un moment donné, à partir du moment où les gens ils prennent le contrôle sur un bout, c'est compliqué en général de le faire arrêter le contrôle en question. Ceci dit, les mouvements retombent, mais il y a possibilité de faire avancer. On a vu des endroits où ça s'est développé, de façon exponentielle. On peut penser à l'Argentine, on peut penser à tout un endroit où ça a amené des possibilités intéressantes. Puis si on veut faire le lien avec le plancher des vaches, ben c'est en période de grève ou de mouvements sociaux quand les comités de mobilisation, par exemple, ou les assemblées générales régulières prennent le pas sur des instances normales comme des exécutifs ou des conseils d'administration, c'est quand finalement les acteurs prennent le contrôle. Et quand la lutte, en fait, devient une école de pratique alternative, on va prendre une terminologie qui est peut-être un peu passéiste, une école socialiste libertaire dans l'action. C'est ce que j'avais écrit sur mon papier. Et finalement, ben c'est ça. Quand des pans entiers de la société vont se seront mis en mouvement, puis auront conquis un peu plus de pouvoir là, sur leur vie, et puis quand il y a des changements qui vont s'imposer d'eux-mêmes parce qu'il va y avoir trop de gens en mouvement, ben à ce moment-là, on pourra. Une perspective révolutionnaire redeviendra éventuellement crédible. Et puis ben c'est ça, on a tous. Sans. Il n'y a personne qui contrôle le climat social, il n'y a personne qui sait exactement où s'en va le Titanic de la société, sauf que c'est sûr qu'on a chacun et chacune notre rôle à jouer, notamment de refuser de se résigner et de manger nos bas quand on voudrait donc qu'on mange nos bas.
Ouais, premièrement, je vais vous parler de l'organisation d'un parti politique, en fait, de la critique libertaire qui apporte à ça. Premièrement, je voudrais commencer par une citation d'Alternative libertaire, une citation qui est dans l'ouvrage Un projet de société communiste libertaire. Prétendre mener une politique socialiste à la tête de l'État, c'est promettre de transformer une automobile en aéroplan simplement en s'attarrage du volant. C'est une citation que je trouve qui illustre très bien l'espèce de division des personnes qui sont dans les partis politiques, selon quoi que l'État c'est une structure qui est neutre, dont l'orientation change au gré du vent des. Nature des partis au pouvoir, tu sais, que si, mettons, ce parti de droite qui est au Québec, mettons, la DQ va être à droite, mais si, mettons, le Québec seul dans les rangs, ben, ils vont virer à gauche. C'est je trouve que c'est bien mal connaître l'État, justement, parce que quand un parti, l'histoire nous l'a montré à de nombreuses reprises, quand des partis qui s'écrivent un temps sur un peu de gauche arrivent au pouvoir, ben, ça prend pas trop de temps, qu'ils n'ont pas le choix de relier leurs engagements pour pouvoir. Parce qu'on est obligé de répondre aux dictats des bourgeois en place, qu'on peut vraiment faire de changement en place parce que l'élite politique, l'élite bourgeoise est trop forte dans le fond. Puis aussi, une des critiques qui avait souvent été faite par rapport à la NEFAC et aussi l'UCL, c'est que dans le fond, la NEFAC et l'UCL étaient des partis politiques, mais dans le fond, à cause qu'on était formés, c'est à cause qu'on était formés. Premièrement, l'organisation aussi des partis politiques, c'était compatible avec l'idéal anarchiste. Premièrement, parce qu'un parti suppose déjà une prise de pouvoir, alors que les anarchistes veulent justement détruire ce pouvoir-là. Puis aussi l'astuce et l'échec d'un parti est contraire à l'anarchiste, parce que dans le fond, l'anarchiste c'est présuppose une prise de décision horizontale, tandis qu'un parti, disons jusqu'en bas.
Parmi les autres solutions qui sortent pour que les gens ont développées pour arriver le plus près possible de leur idéal anarchiste, il y en a deux façons de s'organiser. Il y a toujours la tentation de certains libertaires de s'engager dans la politique active, comme dans des partis comme Québec solidaire, bien que ce soit, je crois, une tendance qui est minoritaire, mais qui existe néanmoins. Je pense que les deux principales formes d'organisation que les anarchistes ont mis de l'avant au cours des dernières années, en tout cas dans des villes comme Québec ou Montréal, ça a été d'une part de créer des groupes qui se sont posés comme en résistance face au capitalisme, au racisme, au patriarcat et à l'impérialisme, mais toujours dans une perspective anti-ceci ou anti-cela. Mais c'est rare qu'on voit apparaître, malheureusement, je crois, des nouveaux collectifs qui se réclament d'un projet politique global. Et ça, c'est une tendance lourde, je crois, dans le mouvement anarchiste aujourd'hui au Québec. Mais la question, c'est de savoir pourquoi, en fait, les gens beaucoup d'anarchistes ont une réticence à se définir positivement, mais ils se définissent toujours en opposition face à quelque chose. Est-ce que c'est le résultat d'une méfiance qui, à mon sens, peut souvent être légitime, ceci dit, face aux idéologies qui sont un peu fermées ou encore aux étiquettes qui sont toutes faites? Ça, c'est une question que je vous pose. c'est sûr que il y a aussi la possibilité, et je crois que c'est légitime aussi, que des gens qui vivent des oppressions spécifiques décident de s'organiser de manière restreinte pour lutter contre ces oppressions-là. La question du racisme, la question du sexisme sont deux bons exemples, à mon avis. Mais ceci étant dit, dans un contexte de refus des luttes, où justement on sent qu'on n'est plus vraiment à l'offensive, mais qu'on est plutôt sur la défensive, ça peut faire du sens de s'organiser contre quelque chose en tenant un discours anti, blablabla. Sauf qu'à long terme, on passe comme à côté d'une étape qui est nécessaire, c'est-à-dire de proposer un projet de société puis de définir les moyens d'y arriver. Puis si les anarchistes n'arrivent pas à le faire de manière assez convaincante ou en tout cas articulée, eh bien, il y a d'autres courants politiques qui, eux, ont un projet de société très clair et des moyens très clairs pour y arriver, qu'ils soient des partis ou des organisations qui soient réformistes ou révolutionnaires. Et c'est d'autres courants de gauche, qu'ils soient sociaux-démocrates, marxistes-léninistes, blablabla. Ces groupes-là vont réussir à aller chercher des gens qui ont le goût de se radicaliser, mais qui et les entraîner vers, à mon sens, en tout cas, des cul-de-sac. L'autre tendance qui est très très lourde dans les cercles militants, c'est le désir de construire ici et maintenant des alternatives au système capitaliste. On peut penser aux coopératives, aux squats, aux infoshops, autant de projets qui sont souvent super trippants, super intéressants à développer. Surtout quand ils sont portés par un mouvement qui est plus large. Et c'est souvent comme ça que ces projets-là arrivent à lever de terre puis à réussir à se maintenir. C'est quand il y a un mouvement qui appuie leur constitution puis qui appuie leur développement. S'il n'y a pas de mouvement derrière ces projets-là, bien souvent ils vont rester à l'état embryonnaire parce qu'ils n'ont pas les ressources aussi pour se développer. La limite de ces projets-là, c'est souvent qu'ils sont rattrapés par les contradictions qui sont inhérentes au système capitaliste puis à la société dans laquelle on vit. C'est sûr que c'est difficile de développer l'autogestion dans un contexte qui est hostile, qui est réfractaire à des formes différentes de s'organiser. Et ça limite un peu l'autonomie de ces espaces-là. Leur marge de manœuvre est assez mince, qu'ils agissent dans la légalité ou dans l'illégalité. Et malheureusement, encore une fois, pour pouvoir survivre à long terme, quand il y a un reflux justement du mouvement qui les a portés à exister, eh bien, il y a beaucoup de projets autogérés qui vont se dépolitiser jusqu'à devenir des coquilles vides d'un point de vue, en tout cas, radical ou anarchiste. Même dans une ville comme Québec, on a vu beaucoup de projets dits alternatifs se normaliser, se privatiser, se banaliser. Quelques exemples en vrac, le CRAC dans Saint-Jean-Baptiste, Communauto qui est devenu une société privée, la librairie Pantoute qui est un projet au départ qui était beaucoup plus de nature autogestionnaire, les groupes de ressources techniques qui développent aujourd'hui les coopératives d'habitation qui sont devenues des patentes privées complètement déconnectées des gens qui sont censés aider. D'où l'importance de ne pas, je crois, considérer l'existence de l'IOTGR comme une fin en soi, mais comme des outils pour un mouvement plus large. Mais ce mouvement plus large, il y a aussi d'autres façons de s'organiser politiquement. Nous, le choix qu'on a fait en s'organisant comme collectif anarchiste à l'intérieur d'une fédération comme l'UCL, c'est justement d'aller au-delà, je crois, d'une critique partielle du système capitaliste ou de certains aspects négatifs du système capitaliste, mais d'essayer d'amener un discours qui est beaucoup plus large puis un projet politique puis s'organiser dans ce sens-là. Faire connaître l'anarchisme, faire connaître les idées puis les pratiques anarchistes au plus grand nombre possible, pas juste un cercle restreint de convaincus. Ceci dit, il y a plein de façons de s'organiser politiquement en tant qu'anarchiste. Nous, on a choisi de s'organiser d'une manière, tout à l'heure, Janie en a parlé, plateformiste, c'est-à-dire d'essayer de définir ensemble une plateforme commune, des points sur lesquels on s'entend, non seulement à l'intérieur de notre collectif local, mais aussi avec les autres collectifs qui sont membres de la même fédération que nous. Et de définir aussi des façons d'agir collectives, c'est-à-dire à partir du moment où on décide. Les différents collectifs qui sont membres de l'UCL décident de monter une campagne, on s'attend à ce que, si ça passe, bien que chacun mette l'épaule à la roue. Et pas qu'il y ait un collectif qui dise, bon, ben non, moi je vais lutter activement contre cette campagne-là. Non, au contraire, c'est l'idée de responsabilité collective. Une fois qu'on a décidé quelque chose, on va prendre les moyens d'atteindre nos objectifs. Puis aussi, ce qu'on appelle, nous, certains appellent ça l'unité théorique et tactique. Moi, j'appellerais ça davantage la cohérence, c'est-à-dire que il n'y ait pas tout et son contraire réunis dans une même organisation. Qu'on s'entende quand même sur un minimum de choses sur lesquelles on s'entend tous et toutes pour avancer dans la même direction. Puis ça fait juste du sens. Il y a des groupes qui n'applique pas ce principe-là, ça peut tirer dans tous les sens puis devenir, à mon sens, assez contre-productif. Il y a plein d'anarchistes qui ont développé un modèle d'organisation tout à fait différent, auquel, malheureusement, je vois tout de suite les limites inhérentes. Ça n'implique pas que les anarchistes peuvent pas discuter, peuvent pas débattre, peuvent pas s'entendre sur des projets qui sont très inclusifs. C'est possible de le faire, sauf que faut être conscient qu'on atteint rapidement la limite dans le temps puis au niveau pratique dans ce genre de projet-là.
Alors, merci à nos camarades d'avoir fait cette conférence. Désolé, ça coupe un peu sec, là, mais comme je vous avais dit avant qu'on embarque dans la conférence, c'était pas la finale de la conférence comme telle. Il y a des éléments de plus. Donc, vous pouvez visiter notre blog aux voies de fait avec un X et un S en un mot, .blogspot.com. Donc, c'était Guillaume.
Jenny.
Et Farouk qui vous dit, on va finir ça avec un petit bout d'une toune d'esclaves salariés, c'est-à-dire temps à perdre. Alors, yeah. On vous dit à la semaine prochaine.
Bonne semaine. Souvent que 24 heures se passent. On dit souvent.